Bonjour à tous. Une bonne année 2020. Que le Seigneur vous remplisse de ses bénédictions pendant l'année qui va venir. Alors, c'est avec un peu de stress que je viens ce matin parce qu'il y a les examens qui s'en viennent rapidement. Mais c'est quand même avec une joie que je vais partager la parole à vous ce matin. Alors, le titre de mon message, si la technologie veut bien, va s'afficher. Pauvre JR. Le titre du message sera « L'Évangile, sagesse, puissance et folie ». L'Évangile, sagesse, puissance et folie. Alors le texte que nous allons étudier ce matin se trouve dans la première lettre que Paul a écrite à l'église de Corinthe. Et Paul a reçu par l'intermédiaire de certaines personnes, Apollos par exemple, ou l'entourage de Chloé, on voit ça dans 1 Corinthiens 1, 11, par exemple. Je lis 1 Corinthiens 1, 11, vous n'êtes pas obligé de le prendre. « En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des rivalités entre vous. » Donc Paul a reçu par l'intermédiaire de diverses personnes, et par un échange de lettres aussi, avec les Corinthiens, il a reçu plusieurs informations concernant l'état de santé de l'église de Corinthe. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas entendu ce que Paul a entendu. On n'a pas non plus retrouvé l'échange de lettres qu'il a eu avec les Corinthiens. Mais par les historiens et par les deux différentes lettres aux Corinthiens, on peut facilement voir les problèmes flagrants de cette communauté. Alors c'est une église qui se situe au sud de la Grèce. Elle était principalement composée de païens, donc c'est-à-dire que la majorité de l'église était composée de personnes d'origine grecque. La ville de Corinthe était très corrompue et que son propre nom était même devenu synonyme de débauche, de dépravation. Alors j'ai lu à l'époque que lorsqu'on parlait de corinthiser, c'était faire preuve d'immoralité dégradante en lien avec la débauche et l'ivrognerie. Mais ce n'est pas tout. Alors je ne sais pas si parmi vous il y a des passionnés d'histoire géo. Mais il n'y a pas besoin d'être un grand historien accompli, ce que je ne suis pas moi-même non plus, hein, pour savoir qu'il y a toute une mythologie derrière, il y a la mythologie grecque, et il y a le savoir de la Grèce antique qui existe. Ces personnes, vivaient dans un environnement où il était bon, il était bien vu de rechercher l'adoration de différents dieux, mais aussi et surtout où il était nécessaire d'essayer d'atteindre un savoir humain assez élevé. Nous sommes à l'époque des grands discours de rhétorique ou de multiples courants philosophiques. Les habitants de Corinthe s'efforçaient de trouver une manière, on va dire, raisonnable et logique de comprendre tel ou tel aspect de leur vie. Les chrétiens de la ville de Corinthe luttaient avec leurs anciennes pratiques. Quand nous devenons chrétiens, nous n'oublions pas, du jour au lendemain notre passé. Nous luttons avec nos vieilles habitudes. Nous savons tous que le combat contre notre vieille nature est toujours présent. Alors regardons les images qu'on va afficher là. Alors nous voyons ici une feuille, plusieurs feuilles, et à côté nous voyons un tronc d'arbre. Alors j'ai pris un laser aux enfants, je ne sais pas si ça va marcher. Si nous regardons bien, en fait, ce n'est pas simplement un arbre et des feuilles, mais nous voyons ici. Là, je ne sais pas si vous voyez, c'est loin, mais il y a un caméléon. Et ici, si vous voyez, il y a une tête de caméléon. Et là, on voit la patte du caméléon. Voilà comment on pourrait caractériser les premiers auditeurs de ce passage. Ce sont des caméléons, des croyants qui sont en lutte avec des habitudes de leur ancienne vie. Ils veulent être acceptés par le monde, mais comment ils font ça? En essayant de s'y conformer. Pour eux, le message de la croix semblait tellement déraisonnable par rapport à toutes leurs connaissances qu'on leur avait appris. Ils voulaient avoir un savoir humain assez élevé, une sagesse. Mais cette mise en contexte permet de réaliser que chacun de nous est dans cette situation aujourd'hui. Nous sommes dans une situation semblable. Nous pouvons facilement nous identifier au premier lecteur. Nous sommes aussi parfois des chrétiens caméléons, n'est-ce pas ? D'une manière ou d'une autre, Que ce soit consciemment ou inconsciemment, nous sommes toujours influencés par notre passé. Un autre exemple, si nous avons mal appris à faire quelque chose, je sais qu'il y a des sportifs parmi nous, il y a peut-être des bonnes cuisinières ou des bons cuisiniers, mais si on apprend une manière de faire, naturellement par nous-mêmes, et qu'après on nous apprend la bonne manière de faire, cela est toujours plus difficile de se corriger. Je pense à un nageur, par exemple, qui apprend à nager naturellement, si après on lui donne les bons mouvements de nage, ça va être très difficile pour lui. Un skieur, c'est pareil, et pour d'autres choses aussi. C'est la même chose avec le verset que nous allons prendre. Lisons ensemble le passage que nous allons voir ce matin. Donc, Jeff, tu veux mettre la prochaine dia. Donc voilà, 1 Corinthiens 1, 18 à 25. Alors, on va essayer de voir à travers ce verset ce que Dieu veut pour nous encore aujourd'hui. Alors, si parmi vous, il y en a qui n'ont pas de Bible, j'insiste là-dessus. Un de mes buts quand je prêche, c'est que les gens soient les yeux plongés dans la parole de Dieu. Ce qu'on veut partager, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas mes paroles, ce n'est pas mes mots. Donc il y a des Bibles comme ça juste à l'entrée. Si vous n'avez pas de Bible, n'hésitez pas à aller en chercher une. Et pour ceux qui ont la même Bible, c'est la page 744. Je lis 1 Corinthiens 1, les versets 18 à 25. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Prions. Seigneur, ce matin encore, nous voulons, Seigneur, nous mettre dans la peau des premiers lecteurs. Seigneur, nous voulons nous rendre compte, Seigneur, que nous sommes semblables à eux, Seigneur. Nous voulons te faire confiance, Seigneur, que ta parole, Seigneur, est puissante pour transformer nos vies, pour nous corriger, Seigneur, pour nous reprendre, Seigneur, pour nous réjouir aussi, nous exhorter, nous encourager. Et nous voulons ce matin, Seigneur, faire notre maximum, Seigneur, selon ta volonté pour rester fidèle à ce que tu veux nous enseigner, Seigneur. Aide-nous à pouvoir encore apprendre de toi, Seigneur, apprendre de ta personne et sur ce que tu veux pour chacune de nos vies. Amen. Alors, lors de beaucoup de prédications, j'ai remarqué qu'on développe en général plusieurs points dans le message et puis en général on termine par l'évangile ou en tout cas un résumé de l'évangile. Et c'est génial en fait, c'est une bonne chose. Parce que tout ce que nous avons besoin pour notre salut, c'est l'évangile. Mais ce matin, nous allons procéder un peu autrement parce que le texte que nous avons lu nous incite à faire autrement. Et je dirais même qu'il nous incite à faire l'inverse. Le texte que nous avons vu va nous parler des effets de l'évangile et de ses caractéristiques. Mais sommes-nous tous au clair sur ce qu'est l'évangile ? Sommes-nous tous au clair sur ce qu'est la bonne nouvelle, pardon, quel est son contenu? Alors c'est comme si je vous disais que les effets et les caractéristiques du respirianisme sont la maladie et la mort. Si vous vouliez éviter ces effets négatifs, je pense qu'il serait bon pour vous de savoir qu'est-ce que c'est le respirianisme, n'est-ce pas? Sinon ça n'a aucun sens. Alors si vous voulez savoir c'est quoi, vous pouvez venir me trouver après, je vous dirai. Mais c'est la même chose avec les versets que nous venons de lire ici. Dans les six versets que nous venons de lire, nous voyons trois fois une expression qui rappelle l'évangile. Regardez avec moi le verset 18. En effet, le message de la croix. Voilà une allusion à l'évangile. Le verset 21. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers quoi ? La folie de la prédication. La prédication de quoi ? De l'évangile. Verset 23. Or, nous prêchons un Messie crucifié. Voilà trois allusions sur six versets à l'Évangile. Mais qu'est-ce que l'Évangile ? Comment comprendre les caractéristiques de l'Évangile si nous ne sommes pas au clair sur ce qu'est l'Évangile ? Alors, on va faire juste un bref résumé ce matin de ce qu'est l'Évangile. Je pense qu'on est tous au clair là-dessus, et c'est toujours bon de faire un petit rappel. Alors, en effet, le mot Évangile veut dire bonne nouvelle. Mais on pourrait ajouter, c'est la bonne nouvelle qui efface la mauvaise nouvelle. L'Évangile est la bonne nouvelle qui efface la mauvaise nouvelle. Dieu a tout créé, il a créé le ciel, la terre, il nous a créé nous, bien sûr, mais nous sommes des enfants de colère, en fait. Et nous avons tous désobéi à notre Créateur. Et je dis bien tous sans exception. Nous avons tous déjà fait quelque chose de mal. C'est ce que la Bible appelle le péché. Dieu le sait. Et le plus petit mensonge ou la plus petite mauvaise pensée est suffisant pour nous séparer de Dieu. Voilà la mauvaise nouvelle dont je vous parle. Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Que la mauvaise nouvelle était effacée par la bonne nouvelle de l'Évangile. Quand nous étions incapables de vivre une vie parfaite, sans péché, et de faire quoi que ce soit pour mériter notre salut, pour éviter notre mort. Impossible, incapable. Dieu est venu sur la terre dans un corps semblable au nôtre, dans la personne de Jésus-Christ. Il a vécu la vie parfaite que aucun de nous ne pouvait vivre. C'est-à-dire que Jésus n'a pas péché, on l'a déjà dit ce matin, on l'a rappelé encore. Et en mourant sur la croix, il a pris la colère de Dieu que chacun de nous méritait. Dieu est ressuscité 3 jours après. Il a donc vaincu cette mort qui nous pendait au nez. Et il a approuvé par la même occasion le sacrifice à notre place. La mort de Jésus suffit à nous sauver. Nous devons simplement reconnaître notre état de pécheur. Croire que Jésus est mort volontairement pour prendre la punition que nous méritions. Voilà un petit résumé de ce qu'est l'Évangile. Alors maintenant, nous avons fait un bon rappel de ce qu'est l'Évangile, regardons les caractéristiques, les effets de celui-ci. Alors nous arrivons à notre premier point. Un Évangile double action, le verset 18. Un Évangile double action. Relisons le verset 18. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance. Ce verset a pour but de nous montrer la double action du message de la croix et les deux seules catégories de personnes qui existent. L'Évangile se caractérise ici par le fait qu'en fonction de la personne qui va entendre, son effet sera différent. Je dirais même que son effet sera diamétralement opposé. Il n'existe que deux destinées pour l'homme. Celle de la perdition, celle de la vie éternelle. Il n'existe pas de milieu. On ne peut pas avoir un pied dans la perdition et un pied dans la vie éternelle. C'est impossible. Nous devons être d'un côté ou de l'autre. Ce verset nous dit aussi que l'Évangile, pendant que le message de la croix est une folie. Le message de la croix est une folie. Mais vous savez pourquoi ? Parce que son message n'est pas valorisant pour le grec. Rappelons-nous du lecteur du début. Il est plutôt humiliant, n'est-ce pas ? Le grec faisait de la sagesse sa raison d'être. Mais l'Évangile ne donne aucune raison de se glorifier. Il ne dépend en aucun cas, de ce que l'humain pourrait accomplir. Nous sommes un peu comme ces Grecs de l'époque. Nous voudrions tellement faire quelque chose pour nous sauver nous-mêmes, n'est-ce pas ? Ce message de la croix nous semble si faible et nous met tellement peu en valeur que nous ne voulions pas y croire. Y aurait-il de l'orgueil de notre part qui rentre en jeu ici ? Je le pense bien. Attention, je précise que le message de la croix est une folie, pas pour Dieu. Ce message est une folie pour les Grecs, pour nous-mêmes, pour les hommes. Alors cet évangile, dans ce verset, il a un peu l'effet de l'engrais qu'on jette dans de la pelouse. Cet engrais qu'on jette, il a deux effets. C'est d'avoir au final, en tout cas, une pelouse la plus belle possible. Le premier, ça va être de tuer tout ce qui est mauvais, toutes les mauvaises herbes. Son deuxième effet va être de donner de la force à la pelouse pour qu'elle soit plus belle et aux bonnes herbes. C'est un peu ce que fait l'évangile ici. La Bible est claire, il n'y a pas de situation intermédiaire. On ne peut pas être au milieu des deux. Il est indispensable, indispensable que chaque être humain d'être conscient du côté où il se trouve. Il est indispensable que chacun de nous ce matin soit conscient du côté où il se trouve. Alors je vous l'accorde avant d'entendre le message de l'évangile, hein, mais bon, malheureusement tous ceux qui sont ici ce matin ont entendu un résumé. C'est vrai que cela peut sembler peut-être... je suis perdu dans mes notes. Nous sommes moins conscients de cela. Nous sommes moins conscients de ce double effet. Mais une fois que nous avons entendu la bonne nouvelle, ceci effectuera exactement le même effet que ce verset nous dit. Une fois que nous avons entendu l'évangile, il y a ce double effet qui repose sur nous. Sachons, de quel côté nous sommes ce matin. Alors, ça doit nous réjouir. Si vous êtes du côté de la vie éternelle, vous devez être joyeux ce matin, parce que le Seigneur a été puissant et vous a sauvé de vos péchés. Ce verset n'est pas quelque chose de déprimant, il est quelque chose de joyeux, parce que nous sommes sauvés par la puissance de Dieu. Cet évangile est folie, mais puissance de Dieu aussi. Et pour ceux qui se situent toujours du côté de la perdition, il y en a peut-être parmi nous ce matin, soyez dans la joie aussi, parce que Dieu est puissant, Dieu est éternel, Dieu ne change pas, et peut vous amener du côté de la vie. Soyons dans la joie ce matin. Alors passons tout doucement à notre deuxième point. La sagesse du monde vs la sagesse de Dieu. C'est-à-dire la sagesse du monde contre la sagesse de Dieu. Et nous allons relire ensemble le verset 19 à 21. La sagesse du monde contre la sagesse de Dieu. Les versets 19 à 21. Du reste, il est écrit, « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Alors, comme expliqué dans l'introduction, Paul répond à des chrétiens qui pensent pouvoir comprendre par la raison et par la sagesse humaine, bien sûr, comment ils sont sauvés. Dieu a montré aux hommes que ce qui leur semblait raisonnable de la part de Dieu, ou même raisonnable de leur part, était insuffisant pour les sauver, mais était plutôt une folie. Alors au verset 19 de notre passage, on voit que l'auteur cite passage de l'Ancien Testament, Ésaïe 29,14. Alors je fais juste une petite parenthèse ici, mais il est toujours très utile de regarder quand dans le Nouveau Testament on cite un passage de l'Ancien Testament, il est toujours très utile de regarder le contexte de l'Ancien Testament. Cela ramène toujours un peu un relief supplémentaire au passage qu'on est en train de lire dans le Nouveau Testament. Et par exemple, ici, il s'agit de montrer que la condition de l'homme n'a pas changé. Avec les années, la condition de l'homme n'a pas changé et elle ne changera pas. Il y avait un jugement dans Ésaïe qui avait été annoncé contre Juda, donc le peuple juif, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe. Mais le chef préférait placer quoi ? Sa confiance dans les alliances avec les autres peuples, avec l'Égypte. Il pensait vaincre l'ennemi comme ça, au lieu de faire confiance en Dieu, aux promesses de Dieu et en ses projets qui sont efficaces. Les hommes ont préféré placer leur confiance dans leurs projets plutôt que de faire confiance dans les projets de Dieu. Vous voyez un peu le relief supplémentaire que ça amène à notre passage ce matin, à la lettre de 1 Corinthiens. La condition de l'homme n'a pas changé. L'avertissement s'élargit en fait davantage. L'homme a toujours compté sur sa propre sagesse plutôt que de compter sur celle de Dieu. Et même si nous ne sommes pas originaires de Corinthe, comme dans cette lettre, nous comptons aussi parfois sur notre propre sagesse. À travers plusieurs moments de l'histoire, Dieu a montré à l'homme que sa sagesse n'était que folie et le menait à la perdition. Alors qu'au contraire, que s'il comptait sur la sagesse de Dieu, cela le conduisait à la victoire et à la vie. Peut-être deux petits exemples, mais ici on a déjà l'exemple d'Ésaïe par exemple. Ils ont fait confiance à leur alliance, à leur sagesse. Ils pensaient que s'allier avec d'autres peuples était plus sage que de faire confiance à Dieu. Et ça les a amenés à la perdition. Il y a l'exemple de Gédéon, qu'on connaît tous. Gédéon avait une grande armée, il était prêt au combat. Qu'est-ce que Dieu lui a demandé? De réduire son effectif, jusqu'à 300 hommes. Mais ici, qu'est-ce que Gédéon a fait? Gédéon a fait confiance à Dieu, a fait confiance à la sagesse de Dieu. C'est vrai qu'à vue humaine, même encore maintenant, on pourrait dire que c'est mieux de combattre avec 100 000 hommes qu'avec 300. Pourtant, Gédéon a suivi la sagesse de Dieu et il a vaincu contre les Madianites. Cherchons-nous à vivre selon ce qui nous semble raisonnable ce matin, ou selon la sagesse de Dieu, pendant que nous trouvons dans la parole? Alors je dois admettre que pour ma part, pardon, il y a encore trop de fois, où je m'appuie sur ce qui me semble raisonnable pour faire mes choix, plutôt que de placer ma confiance dans la sagesse de Dieu, dans ce que je trouve dans la parole, et même si Dieu me dit clairement ce que je dois faire. Trop souvent encore, je fais ce qui me semble raisonnable à vue humaine. Et vous ce matin, vous, êtes-vous dirigé par votre propre sagesse ou êtes-vous dirigé par la sagesse de Dieu? Le verset 20 est la conclusion parfaite de cette section. On va le relire ensemble. « Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. » Le constat est qu'aucun humain, comme la sagesse, pardon, qu'aucun moyen humain, comme la sagesse par exemple, ne peut faire en sorte que l'homme trouve Dieu. La sagesse de l'homme se fourvoie. La sagesse de l'homme refuse de rendre grâce à Dieu et de le glorifier. L'homme aurait pu et l'homme aurait dû comprendre à travers la beauté de la création, à travers la conscience que Dieu lui a donnée, que seulement Dieu, seulement de Dieu pouvait provenir la véritable sagesse. Mais il n'a pas fait. L'homme n'a pas fait cela. Paul insiste sur la sagesse dans ce passage parce que leur salut en dépend. Le salut des hommes de Corinthe dépendait de la sagesse de Dieu. Ce matin, est-ce que notre salut n'en dépend pas aussi? Notre salut dépend de la sagesse de Dieu. Pour la fête, ce verset, je dois de vous faire remarquer que c'est comme pour le verset 18. La folie de la prédication n'est pas celle de Dieu ici. Mais encore une fois, c'est ce que les hommes pensent de la prédication. La croix brise toute la sagesse humaine. Pour eux, il n'est pas concevable, pour les Grecs, que ce soit un moyen choisi par Dieu pour les sauver. Mais c'est le cas et nous devons l'accepter. La croix est le moyen choisi par Dieu pour nous sauver. Personne n'a forcé Dieu à le faire. Il a choisi, dans sa sagesse, de procéder comme cela. Il est vrai qu'à vue humaine, cela semble fou. Que le Dieu tout-puissant, éternel, grand, on a rappelé encore ce matin dans la présidence, un Dieu qui est puissant pour nous sortir du péché, ce Dieu si grand, fasse mourir son Fils unique, qui était innocent, pour sauver de simples hommes. Mais c'est le moyen que Dieu a choisi pour être glorifié comme il se doit. C'est le moyen que Dieu a choisi pour se glorifier comme il se doit. Mais alors je voudrais nous mettre en garde ce matin aussi, et moi en premier, sur le fait de penser que placer notre foi en Jésus, ce serait un acte de sagesse de notre part. On pourrait se dire ça. Mais au contraire, la foi, qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est le renoncement de notre sagesse. Tant que nous serons attachés à notre propre sagesse, nous verrons le message de la croix comme une folie, en fait. C'est uniquement lorsque nous abandonnons cette idée que nous sommes alors capables de faire entièrement confiance à Dieu et que nous pouvons dépendre de lui entièrement, que ce soit pour notre salut, pour notre vie. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retirer de là ce matin? Quel enseignement retirer de ces deux versets, de ces trois versets? Soyons dans la joie. Écoutez bien, ça va être difficile. Soyons dans la joie quand le monde nous dit que nous sommes fous. Pourquoi vous ne souriez pas? Soyez dans la joie quand le monde vous dit que nous sommes fous. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce que le passage nous dit. Le passage nous dit que le monde voit l'évangile comme une folie. Soyons dans la joie quand nous sommes insultés de fous par le monde. Quand nous partageons la bonne nouvelle, n'essayons pas de convaincre les gens par la raison humaine. Personne ne pourra venir au salut par la raison humaine. C'est souvent ce qu'on a tendance à faire, et moi le premier. J'essaie de raisonner les gens sur la véracité de l'évangile. Non, prions pour ces gens. Prions que Dieu agisse par sa sagesse, par son Saint-Esprit dans le cœur, qui transformera les vies. C'est lui qui peut le faire. Faisons-lui confiance. Et ce qui est génial ici aussi, c'est de redécouvrir pardon, que le salut est accessible à tous et pas seulement à une élite. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il ne faut pas une sagesse élevée, il ne faut pas une connaissance élevée, ni une intelligence humaine assez élevée pour être qualifié, pour avoir la foi en Jésus et être sauvé. C'est uniquement la foi qui nous qualifie. Et elle est accessible à tout être humain. Cette foi est accessible à tous. Un riche, un pauvre, un intelligent, un moins intelligent, un jeune, un moins jeune, etc. Soyons dans la joie, parce que cet évangile est accessible à tout le monde. Soyons dans la joie si on nous insulte de fou. Passons tout doucement à notre troisième point, la folie et la faiblesse de Dieu. La folie, je dis bien, la folie et la faiblesse de Dieu. Magnifique, n'est-ce pas, comme titre? La folie et la faiblesse de Dieu. Quel chrétien pourrait dire cela? Quel chrétien pourrait dire cela? Quel chrétien pourrait écrire un jour un livre et dire « La folie et la faiblesse de Dieu » Quel chrétien pourrait écrire un article et dire « La folie et la faiblesse de Dieu » Difficile, non? Dieu est-il fou? Dieu est-il sage? Dieu est-il faible? On va voir cela. Relisons le passage ensemble. C'est versets 22 à 25. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. Verset 25, attention. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ce que l'apôtre cherche ici, l'apôtre Paul qui écrit cette lettre, c'est une réaction de la part du lecteur. Quelle réaction Dieu attend de nous quand nous lisons ce verset? Le verset 22, pardon, nous montre bien que l'attente de l'homme est encore une fois bien différente de ce que Dieu semble bon et utile. Les Juifs attendaient un roi puissant qui viendrait en conquérant, un chef qui vaincrait de manière grandiose les ennemis, un chef de guerre comme il n'y avait jamais eu auparavant en Israël. Ce que les Juifs attendaient, c'était un homme apte au combat, le plus doué sur le champ de bataille. Ils attendaient quoi aussi? Un signe miraculeux. Ils l'ont même réclamé directement à Jésus. Et on peut voir ça dans Matthieu 12, verset 38. Il est écrit « Alors quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. » Mais les Grecs, quant à eux, ne voyaient pas en Jésus les impressionnantes caractéristiques des soi-disant dieux de la mythologie. Les grands érudits grecs ne trouvaient certainement pas sage que le grand Dieu de l'univers soit venu de manière si insignifiante. On en a parlé ces dernières semaines dans une crèche. Le fait que le salut vienne par un simple homme, que celui-ci soit venu dans une condition de serviteur, qu'il soit mort sur une croix, le pire des supplices, c'est pour le plus grand des criminels. Cela ne correspondait absolument pas à ce que les Grecs et la sagesse humaine s'étaient imaginés. Le verset 23 et 24 nous ramène à notre première constatation du verset 18, le double effet de l'évangile. Mais qu'est-ce que nous pouvons voir en plus dans ce verset? Il y a une petite nuance supplémentaire ici. Nous voyons ici que l'effet positif et négatif n'est pas seulement réservé aux habitants de Corinthe, en fait. Nous voyons que le peuple juif, le peuple élu de Dieu, est aussi concerné par ce double effet. Alors, dans beaucoup de passages du Nouveau Testament, souvent on parle de ce que les Juifs avaient, du bénéfice des Juifs, et que maintenant les non-Juifs, les païens, les Grecs, ont accès à ça. Ici, dans ce passage, il fonctionne un peu différemment. Donc il dit aux Grecs, voilà, l'effet de l'évangile sur vous, mais vous ne tracassez pas. Les Juifs ont aussi ce double effet sur leur vie. Qu'est-ce que Paul veut faire ici? Paul veut certainement dire aux Corinthiens de ne pas se plaindre de ce double effet. Ce double effet est valable pour tout le monde. Il n'y a pas de différence. Pas de distinction de race, d'ethnie, d'origine ou de culture. Non. Non, l'évangile est une folie pour tous ceux qui ne placent pas leur foi en Jésus-Christ. L'évangile est une folie pour tous ceux qui ne placent pas leur foi en Jésus-Christ sans distinction. Paul insiste aussi que l'évangile n'est pas seulement la puissance de Dieu ou seulement la sagesse de Dieu, non. Il correspond aux deux en même temps. Et j'ai vraiment apprécié en lisant ce texte de voir la logique qu'il y avait dans ces deux versets. Regardez avec moi. Paul est en train de dire aux Juifs, qu'est-ce qu'il dit ? Vous voulez voir un miracle puissant ? Vous voulez voir la puissance de Dieu à travers des miracles ? Non. La puissance de Dieu se manifeste comment ? À travers le Messie crucifié. Voilà où se manifeste la puissance. Il est en train de dire aux Grecs, vous voulez trouver la vraie sagesse de l'homme ? Non. Regardez, la vraie sagesse est celle de Dieu, que Dieu a manifestée en crucifiant son Fils. Dans ces versets, l'Évangile est considéré comme le Fils, comme le Messie crucifié. La crucifixion est l'ultime démonstration de quoi ? Je viens de le dire, de la puissance et de la sagesse de Dieu. La crucifixion est l'ultime démonstration de la puissance et de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, pourquoi ? Parce que Dieu a transformé le plus grand crime de l'histoire en occasion de salut. La puissance, parce qu'après avoir été crucifié, Jésus est ressuscité 3 jours plus tard. Venons maintenant à la réaction entendue par Paul au verset 25. La seule réaction possible après réflexion doit être notre humilité la plus complète. Nous devons réaliser à quel point le Dieu que nous servons n'est ni fou, ni faible. Mais au contraire, ce qui paraît être une folie ou une faiblesse de la part de Dieu aux yeux des hommes, c'est-à-dire de laisser mourir son propre fils sur la croix sans intervenir, alors qu'il était innocent, est bien plus sage et bien plus fort que ce que le meilleur homme sur terre pourrait produire ou manifester. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette solution est volontaire de la part de notre Père Céleste. Il est le seul véritablement efficace pour nous sauver de nos péchés et de la condamnation qui pesait sur nous. Faisons davantage confiance à Dieu quand les événements de notre vie ne se passent pas comme nous l'avions prévu. Peut-être qu'en 2019, il y a des événements qui se sont passés d'une manière que nous n'aurons pas pensé. Mais faisons confiance à Dieu, parce que Dieu est le seul qui sait parfaitement ce que chacun de nous a besoin. Dans sa sagesse, Dieu sait parfaitement ce qui est bon pour chacun de nous. Plaçons notre confiance uniquement en Dieu et pas dans notre sagesse humaine. Quelle conclusion ce matin ? Quelle conclusion amener à ce passage ? Je pense qu'il ne faut pas aller chercher loin. Faisons peut-être un petit résumé des 3 points que nous avons vus. Premièrement, nous avons vu un double effet, pour l'Évangile. Posons-nous la question, quel effet a l'Évangile sur ma vie ? C'est plutôt la folie de la perdition, du côté de la perdition, ou plutôt la vie éternelle, la grâce que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Dans un deuxième temps, nous avons vu que la sagesse du monde était inutile pour trouver Dieu. Mais Dieu, dans sa sagesse, a pris plaisir à nous sauver par la folie de la prédication. Alors soyons dans la joie, que notre salut ne dépende pas de notre propre sagesse. Imaginez-vous si mon salut devait dépendre de ma propre sagesse. Pensez-vous que je serais ici ce matin ? Non, il serait loin le moment où j'aurais trouvé Christ. Troisièmement, nous avons vu que la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu est de loin supérieure à la nôtre. Cela doit nous motiver à aller de l'avant et lui faire confiance dans tous les domaines de notre vie. Il est notre Père. Nous sommes ses enfants. Que ce soit dans nos études, que ce soit au travail, que ce soit avec le voisinage, avec les amis, ou dans d'autres situations, ou avec la famille. Vivons une vie qui plaît à Dieu. Et même si parfois nous sommes éprouvés ou déçus, ou tout ne se passe pas comme prévu,
soyons certains que Dieu sait ce qui est bon pour chacun de nous. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette année 2019, Seigneur, qui s'est écoulée, Seigneur. Merci parce que, comme Ernest nous l'a dit, Seigneur, en 2020, Seigneur, une chose est sûre, c'est que nous nous rapprochons, Seigneur, du retour, Seigneur, où nous te verrons face à face, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, durant cette année 2020, te faire confiance davantage, Seigneur. Nous voulons faire confiance à ta sagesse, Seigneur. Trop de fois, nous voulons encore, Seigneur, agir par notre propre raisonnement humain, Seigneur, en pensant que c'est la meilleure chose qui pourrait être pour nous, Seigneur, alors que toi seul, toi le créateur de toutes choses, Seigneur, tu sais ce qui est bon pour chacun de nous, tu sais ce qui est bon pour tes enfants, Seigneur. Seigneur, que chaque personne ici présente ce matin, dont moi, Seigneur, nous soyons dans la joie, Seigneur, quand on est insulté de fou, Seigneur, ou quand les gens pensent que la prédication de l'Évangile est une folie, Seigneur, parce que c'est une réalité, Seigneur, et nous devons l'accepter, Seigneur. Merci parce que pour nous, Seigneur, cet évangile a été sagesse et puissance. Et merci parce que tu nous as sortis d'où nous étions, Seigneur. Tu nous as fait passer, Seigneur, du côté de la perdition, Seigneur, à la vie éternelle, Seigneur. Et nous sommes dans la joie ce matin pour cela. Que ton nom soit loué à tout jamais. Amen.